Ok oui, 10h02, excellent lundi, bienvenue dans le Point de Max pour les deux prochaines heures. 418-971-1021, le numéro pour me rejoindre en texto. Il y a aussi la belle communauté sur Twitch qui réagit en direct, c'est au twitch.tv/BLVD/FM. L'application Boulevard 102.1 pour nous écouter, peu importe où vous êtes. Puis en plus avec ça, c'est encore plus facile de cliquer sur le petit texto puis même de nous appeler. 88-780-1021. N'hésitez pas, hein, je suis tout seul en studio, fait que si ça vous tente d'appeler puis de me jaser, vous êtes toujours les bienvenus. 88-780-1021, ça c'est le téléphone. 88-971-1021, ça c'est le texto. S'il y a quoi que ce soit d'ailleurs sur les routes, vous pouvez me faire signe, je vous invite à le faire. Présentement, ça a l'air assez beau. À la météo, ça, c'est beau pour vrai. 16 degrés présentement à Québec. On attend 23 aujourd'hui avec un humidex qui nous mènera à un genre de 26 ressenti. Puis c'est toute une semaine qu'on attend. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, rien que du soleil, quelques petits nuages de temps en temps avec des températures, bon, pour les trois prochains jours autour des 25-26 degrés. Ça va descendre un petit peu au cours du week-end, mais ça va rester super beau. Après le super beau week-end qu'on vient aussi d'avoir, avez-vous profité de ce qu'on nous offrait au niveau culturel à Québec, avec Envol et Macadam dans le coin de l'Agora, mais aussi un peu partout en ville, le Festival Phono aussi dans le coin de l'Université Laval. On va en reparler ça dans les prochaines minutes parce que samedi, du côté du Festival Phono, là, un des bons shows de l'année à Québec. Puis c'était même pas, entre guillemets, une tête d'affiche. Là. C'était pas les trois accords qui étaient là comme tête d'affiche en remplacement de Charlie Puth samedi. Les trois accords qui ont donné un bon show, comme d'habitude. T'avais Loud après ça aussi sur l'autre scène qui a attiré bien du monde. Mais un peu plus tôt, un certain Grandson a donné tout un show, on s'en reparle un petit peu plus tard. Le temps de vous dire que sur Duplessis Nord, hauteur de l'avenue Jules Verne, la voie du centre et la voie de droite sont bloquées en raison d'un accident. Fait que Duplessis Nord, ça pourrait se compliquer dans les prochaines minutes à la hauteur de Jules Verne. Dans l'actualité, il y a pas mal de choses qui se passent aujourd'hui, entre autres entrée parlementaire du côté d'Ottawa. Ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est le grand retour du chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, lui qui n'avait pas été élu aux dernières élections fédérales, finalement est passé par une élection partielle dans Battle River Crowfoot pour gagner son poste et sera de retour donc aujourd'hui pour faire face à Mark Carney. On va en parler aussi dans les prochaines minutes, mais commençons plus près de nous alors qu'on se tourne du côté de Lévis. La semaine passée, assez terrible ce qui s'est passé. En plein jour, il était autour de 8h du matin quand un homme a été poignardé du côté de la rue des Caps. C'est jeudi matin que ça s'est passé. Un homme de 62 ans, donc, qui a perdu la vie. Puis là, on en sait un petit peu plus sur l'homme qui est accusé dans cette histoire-là. C'est un gars de 48 ans, de Lévis, Vincent Boulanger, qui a été arrêté au courant de la fin de semaine dans son logement du chemin du Sceau. Comparaissait en fin de semaine. Doit y avoir retour en cours aujourd'hui et accusation de meurtre donc qui sera déposée. Selon les informations du Journal de Québec, le suspect serait connu des autorités en raison de problèmes de santé mentale et de crises violentes qu'il pouvait avoir. Il n'y avait pas d'antécédents judiciaires pour autant, mais son nom qui était vraisemblablement connu des autorités. On nous dit que les deux individus, donc celui qui sera accusé et celui qui a été poignardé, qui en est décédé, ben, les deux ne se connaîtrait pas, semble-t-il, restait assez près, là, à moins d'un kilomètre l'un de l'autre, mais c'est tout. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui pourrait être le motif là, derrière cet événement-là. Alain Dubois, qui est la victime, on parle d'un gars sans histoire, pas connu du tout du milieu policier, un gars qui travaillait avant sa retraite pour les systèmes d'information, là, dans le domaine des systèmes d'information pour la ville de Québec. On a comme hâte d'en savoir plus là-dedans parce qu'une attaque en plein jour comme ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est assez inquiétant. Sinon, dans les nouvelles qui retiennent notre attention, dans le Journal de Québec, le maire Bruno Marchand qui va d'une première grande promesse électorale à l'effet qu'il y a de l'argent, une centaine de millions de dollars là, qui sera investi pour le quartier Saint-Roch. On parle d'un électrochoc. C'est la plus importante promesse de Bruno Marchand. On sait que la campagne électorale n'est pas officiellement commencée, là. Ça commence pour vrai vendredi. Mais ça fait des semaines, on va se le dire, qu'on est en plein dedans. Ce qu'on nous mentionne dans le journal, c'est qu'il y a entre autres des dizaines de millions de dollars qui vont être injectés dans 5 parcs qui, on le sait, en ont un peu besoin en ce moment, soit le parc Jean-Paul Lallier, l'îlot Fleury, la place Jacques-Cartier, la Marina Saint-Roch et le parc Gilles-Lamontagne. Puis quelque chose qui fait qu'il en a fait sourciller plus d'un dans ce dossier-là, c'est qu'on peut lire, je vais vous le lire mot pour mot, là. Rien ne sera laissé au hasard, souligne le maire sortant, qui continue malgré tout de croire que la situation concernant Saint-Roch, bien qu'elle méritait un grand éventail d'actions, a été amplifiée. Fait que c'est un peu comme si le maire de Québec, Bruno Marchand, disait « Ben, tu sais, j'injecte beaucoup d'argent, on en a besoin, c'est 100 millions de dollars qu'on va mettre dans le quartier Saint-Roch. » Mais d'un autre côté, ben, c'était pas si pire que ça, là. Les médias ont exagéré, les partis d'opposition ont exagéré. Fait que c'est un genre de drôle, de double message, d'en faire un peu quasiment ta priorité numéro un, mais de l'autre côté, dire la problématique a été exagérée concernant la situation dans Saint-Roch, alors que n'importe qui passe dans Saint-Roch puis qui passait dans Saint-Roch dans les dernières années a pu voir réellement dans le concret la situation se détériorer. Donc, c'est un plan en 8 axes qui sera présenté par Bruno Marchand. On parle de logement, oui, social, mais autre aussi. Itinérance, infrastructure, sécurité, entretien des lieux et enlèvement des graffitis. Programme pour attirer des travailleurs autonomes et commerçants, plan de soutien pour les commerçants et amélioration de la luminosité et de l'éclairage. Dans le soleil, on nous parle de la Ville de Québec qui est sur le point de signer le deuxième plus gros contrat du projet de tramway jusqu'à maintenant. Puis ce qui est bien intéressant là-dedans, c'est qu'il coûterait beaucoup moins cher que prévu. On parle du contrat de réaménagement du boulevard Laurier pour l'état transitoire avant l'implantation du tramway. Contrat qui coûterait finalement 55 millions plus taxes alors que la Ville prévoyait débourser 95 millions avant taxes. Fait que contrat qui sera adjugé bientôt au plus bas soumissionnaire, l'entreprise Charles-Auguste Fortier, pour la somme totale de 63,2 millions. Selon les infos du Soleil, c'est plus de 40% moins cher que prévu. Ça pourrait être confirmé au prochain conseil municipal. On est tellement habitué que tout coûte plus cher que ce qu'on pensait. On va le prendre. Si vraiment on peut avoir un contrat pour à peu près 40% moins cher par rapport à ce qu'on prévoyait. Toujours dans les dossiers municipaux, après celui du bruit à l'Académie Saint-Louis, la Ville de Québec qui a perdu un autre référendum en fin de semaine. Cette fois, les citoyens appelés à voter qui l'ont fait en majorité contre le développement résidentiel au nord-est du carré de Tracy dans le secteur de Charlebourg. Sur les 1241 personnes qui pouvaient voter, 655 l'ont fait. C'est un taux de participation de 52%, puis ça n'a même pas été proche, là. 122 citoyens qui ont voté pour contre 533 qui ont voté contre, puis dans ce dossier-là, il y a eu énormément de tensions. Certains parlaient d'intimidation même. Il y a eu du vandalisme, entre autres choses, là, dans les jours précédant le référendum, parce qu'il y a des citoyens qui ne voulaient pas perdre leur forêt et tout ça. Mais là, l'affaire, c'est que le référendum a été perdu, il n'y aura pas de projet résidentiel. Et le propriétaire, je veux dire, ça lui appartient, le terrain. Là. Fait que lui, ce qu'il disait un peu dans les dernières semaines, puis j'ai hâte de voir comment il va mettre ça en place, mais il va prendre des mesures pour couper, dans un certain sens, l'accès à la forêt aux citoyens. C'est un peu ce à quoi on s'attend. On va attendre de voir les décisions, puis ce qui sera annoncé officiellement. Mais lui, le propriétaire, le promoteur, ce qu'il disait, c'est je vais faire un projet qui va laisser une place à la forêt, à la nature, puis après ça, ben les résidents autour pourront en profiter. Mais là, une fois que le référendum est perdu, ben lui, il gagne absolument rien à laisser les citoyens continuer de profiter de ce terrain-là. Il dit, moi, ben regarde, moi, c'est mon terrain privé, là. Fait que vous autres qui vouliez continuer de la forêt, ben just too bad, vous avez voté contre mon projet qui voulait vous laisser une place dans la forêt, ben je vais vous couper l'accès à la forêt. Comme je dis, il n'y a rien encore de confirmé là-dedans, il n'y a rien encore de concret, mais c'est un peu, selon ce que j'ai vu passer des dernières entrevues du promoteur, ce serait un peu ça son plan, là, de faire un genre de fuck you à la population qui a voté contre son projet pour dire... Ben, c'est beau. vous n'aurez plus l'accès à la forêt. La nouvelle plateforme numérique de gestion des demandes d'immigration permanente du gouvernement du Québec va lui coûter 3,5 millions plus cher que prévu. C'est le Journal de Québec qui rapporte que la facture a déjà grimpé de 9,8 millions à 13,3 millions, représentant une hausse de 36%. On apprend aussi que le projet qui a déjà pris du retard est encore loin d'être terminé. Le tableau de bord des projets informatiques du gouvernement qui prévoit une livraison pour la fin du mois de mars 2027. Un porte-parole du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration explique qu'une nouvelle structure de gestion du projet a été mise en place en mars dernier et plusieurs mécanismes ont été instaurés pour améliorer au quotidien le suivi des livrables et des ressources affectées au projet. C'est aujourd'hui, comme je vous le disais il y a quelques minutes, que les députés fédéraux font leur retour à la Chambre des communes à Ottawa. Ce qu'on va surveiller, entre autres, c'est le retour de Pierre Poilievre, comme je vous le disais. Mais déjà, on parle beaucoup aussi du premier budget du gouvernement Carney qui doit arriver là, dans les prochaines semaines pour l'automne. Et dans la presse, on évoque ce matin la possibilité d'un déficit qui pourrait atteindre les 100 milliards de dollars. En campagne électorale, Mark Carney, il prévoyait un déficit de 62 milliards. Et à ce moment-là, ce qu'on disait, c'est qu'on allait aller chercher, là, selon nos calculs, 20 milliards en revenus via les droits de douane sur les importations de marchandises des États-Unis. Mais là, on sait maintenant, il y en a beaucoup qui sont tombés de ces droits de douane-là. Mais quand même, passer de 62 milliards de déficit prévu en campagne électorale à 100 milliards de déficit, assez intense. On apprenait récemment que les ministères fédéraux devraient présenter un plan de compression pour aller économiser jusqu'à 15% des dépenses d'ici 3 ans. Reste à voir si ça aura un impact qui sera suffisant pour limiter les dégâts. Mais c'est sûr que ça ne regarde pas super bien. Au sport, pour une 4e année de suite, les Capitales de Québec qui accèdent à la finale de la Ligue Frontier. Les deux premiers matchs de la série qui auront lieu au Stade Canac demain et mercredi. Ensuite, on va se transporter du côté du domicile des Boomers de Schaumburg. 4e championnat de suite, ce serait quelque chose pour les Capitales. Toujours dans le baseball, les Blue Jays de Toronto qui ont eu le dessus 11-2 sur les Orioles de Baltimore hier. On débute ce soir une série face aux Rays de Tampa pour ce qui est des Jays. Dans la NFL, match un peu décevant, les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City. 20-17, le résultat final en faveur de Philly. Match poche un peu. Tu sais, quand Jalen Hurts atteint même pas les 100 verges par la passe, puis que bon, Patrick Mahomes, en fin de match, a quand même un petit peu amélioré ses statistiques offensives. Mais avant le quatrième quart, c'était très, très, très mollo de ce bord-là aussi. Il y a eu de bien meilleurs matchs hier. Dans la NFL, juste à penser au match entre les Cowboys de Dallas et les Giants de New York, avec Russell Wilson qui joue comme si on était 10 ans en arrière, a connu une de ses meilleures performances offensives en carrière. Assez impressionnant de voir Russell Wilson comme ça du côté des Giants sortir un peu de nulle part puis nous offrir une performance de la sorte. Mais malheureusement pour lui et ses coéquipiers, les Cowboys de Dallas, en toute fin de période de prolongation, ont réussi à se sauver avec la victoire. Le match entre les Dolphins de Miami et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre était quelque chose aussi. Les revirements après revirements de situation en fin de rencontre. Finalement, les Pats qui ont réussi à se sauver avec la victoire de ce côté-là. On a eu des bons spectacles et c'est pas terminé parce qu'il y a le Monday Night Football ce soir et c'est un double Monday Night Football. Dès 19h, les Buccaneers de Tampa Bay qui affrontent les Texans de Houston. Ça pourra n'être qu'une popée pantoute. Et dès 22h, les Chargers de Los Angeles qui visitent les Raiders du côté de Las Vegas. Présentement, les fans de hockey ont les yeux tournés vers le tournoi de golf du Canadien. Pourquoi? Pas de voir les gars jouer au golf qui nous intéresse bien, là. C'est surtout d'entendre les différentes entrevues des différents personnages dans les alentours du Canadien de Montréal, que ce soit Jeff Gorton, que ce soit Kent Hughes, que ce soit Martin Saint-Louis, les joueurs aussi qui prennent la parole. Et on va en jaser de ça avec l'ami Alex Laramé du 99.5 Montréal. On va analyser un petit peu différentes citations qui ont été sorties dans les dernières heures du côté de ce tournoi de golf-là du Canadien de Montréal. On va jaser aussi aussi du tournoi des recrues qui avait lieu en fin de semaine au Centre Bell avec les jeunes joueurs, entre autres, des Jets de Winnipeg, des Sénateurs d'Ottawa, des Maple Leafs de Toronto, bien sûr, du Canadien de Montréal, avec un certain Ivan Demidov qui était là samedi. Puis finalement, ben, on s'est rendu compte qu'Ivan Demidov avait pas d'affaires là, mais pas en tout. On s'en doutait bien qu'il allait être dominant, là. Mais finalement, ça avait juste tellement pas de bon sens que hier, pour l'autre match disputé par les recrues du Canadien, on a dit à Ivan Demidov, ouais, on prendra pas de chance là, que potentiellement tu te blesses ou t'as pas d'affaires là, mais pas en tout. Fait qu'on en jase dans quoi? À peu près une demi-heure avec l'ami Alex Laramé du 99.5 Montréal. Dans les prochaines minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jaser d'une entrevue qu'on a fait ce matin avec la gang de Marceau. Le dossier Charlie Kirk qui fait encore énormément jaser. Et ce matin, on en a discuté avec Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Québec. Dans les prochaines secondes, on en discute ensemble dans le Point de Max.
Dans le retour. Le Point de Max. Le Point de Max, l'actu du jour avec une touche de Larouche.
Avant de se jaser du dossier Charlie Kirk qui continue de faire réagir pas mal, nouvelles de dernière minute, Dominique Laroche qui va rester détenu en attendant d'avoir là, la peine pour les crimes sexuels dont il a été reconnu coupable. Ce qu'on nous dit, c'est que les garanties que la défense offrait pour dire « Non, Dominique Laroche devrait pouvoir rester en liberté en attendant qu'on ait la peine », ben on dit que ces garanties-là n'étaient pas suffisantes. C'est le Journal de Québec qui vient de rapporter la nouvelle. Dominique Laroche qui restera en dedans en attendant sa peine pour des crimes sexuels. Par rapport à un dossier dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, on a reçu un texto 418-971-1021. Gênez-vous pas hein, pour réagir en tout temps. Vous pouvez même appeler si la personne qui a texté a le goût d'appeler pour jaser. Ben, ça va faire plaisir. Texto, c'est 418-971-1021. Et pour appeler, pour jaser en direct avec moi en studio, c'est le 418-780-1021 par texto. Ce qu'on nous dit, c'est que dans le dossier là, du référendum perdant pour projet immobilier. Le promoteur a acheté un terrain protégé. Le Cambo Royal avait été cédé par expropriation avec entente pour conserver l'aspect récréationnel de l'espace. Et c'est pas ce qui se prépare. Ils veulent bloquer les accès parce que nous ne sommes pas d'accord. Le vandalisme, c'est un panneau mis par terre par possiblement une seule personne. Ça, c'est par rapport à la tension dont je vous parlais là, dans les jours qui ont précédé le référendum. Par rapport au projet, de ce que je comprends, puis tu sais, là, je semble parler avec quelqu'un qui est directement touché. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Je n'avais pas le droit de vote au référendum, contrairement à, j'imagine, cette personne-là qui a texté. Je trouvais qu'il y avait quand même de bons compromis d'offert par le promoteur. C'est sûr que ça peut pas être parfait. S'il y a des gens qui veulent conserver la forêt à 100% du côté du carré de Tracy, ben c'est sûr que même des compromis ne feront pas l'affaire. Là, de ce que je comprends, c'est qu'on laissait quand même une bonne place à la forêt puis qu'on regardait avec la ville pour garder une belle place pour l'environnement. Bruno Marchand disait que les citoyens là, allaient continuer d'avoir accès à la nature. Mais c'est pas assez vraisemblablement. Et pour ce qui est du référendum, ça a été assez clair. Là. C'est un non au niveau des citoyens. Là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu la question qu'on se pose. Je viens de retrouver l'info là, dans le soleil. Le promoteur qui s'était engagé à céder 67% du terrain privé à la ville pour faire un espace public vert. Fait qu'à partir du moment où il y a 67%, le deux tiers qu'on est prêt à donner à la ville, puis on dit à la ville, hey, avec ce 67%-là là, du terrain privé, ben vous ferez des parcs, vous ferez un espace public vert. Moi, je vais prendre le reste du terrain, qui est une minorité, puis je vais construire des logements, alors qu'on sait qu'on est en besoin criant de logements. Ben moi, je trouve que c'est un bon deal. Cela dit, Je comprends que les gens qui habitent là ont peut-être une opinion qui est différente, puis qu'on ne peut pas nécessairement comprendre en n'étant pas directement à côté. Bref, je vous disais qu'on allait revenir sur Charlie Kirk, assassiné sauvagement la semaine passée du côté des États-Unis alors qu'il donnait une conférence dans une université. Dossier qui continue de faire jaser, un dossier qui est excessivement polarisant. On dirait que dans ma tête, c'est assez évident que quelqu'un de sensé ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Dans ma tête, c'est une évidence. Par contre, force est d'admettre que dans les derniers jours, on a continué d'en voir pas mal des gens, plus souvent du côté de la gauche, veux pas, en contradiction avec les idées qu'amenait Charlie Kirk. Ben, il y en a qui se réjouissent encore de la mort de cet homme-là, de ce père de famille-là dans la jeune trentaine. Et on en a parlé ce matin dans Marceau le matin avec Luc Laliberté, qui est un chroniqueur là, très spécialisé sur les États-Unis, un gars qui a été prof d'histoire. Puis c'est d'ailleurs un point qui est abordé dans l'entrevue qui est super intéressante. Donc, entrevue dans Marceau le matin avec Luc Laliberté.
Luc Laliberté, tout le monde est à l'extrême gauche, tout le monde est à l'extrême droite.
Oui, bonjour.
Salut.
Oui, on va. Ben, c'est-à-dire qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir si la majorité qui s'exprime trop peu souvent à mon goût finit, soit dans les médias éventuellement, mais surtout dans les boîtes de scrutin, finit par insister sur ce que la majorité souhaite. Je partageais dans le carnet auquel tu faisais référence tout à l'heure des statistiques qu'un chercheur de l'Université de Montréal m'a fournies. Donc, c'est des choses que j'avais vues passer, mais sans m'y attarder, sans décortiquer ces chiffres-là. Et ce que lui dit essentiellement, c'est on entend beaucoup les extrêmes. Et il y en a des extrêmes à droite et il y en a des extrêmes à gauche, mais il n'y aurait que 6 % dans l'ensemble de la population américaine qui se considèrent comme appartenant à ces extrêmes. Pour les autres, non seulement plus de la moitié se considère comme centriste, donc c'est soit littéralement au centre ou légèrement républicain, légèrement démocrate, mais on n'est pas dans la majorité des cas vers les extrêmes. Et ce qui est drôlement intéressant, c'est que sans allégeance politique particulière, ils sont à plus de 80 % contre le recours à la violence sous toutes ses formes pour faire avancer son point. On est, je pense, le républicain et démocrate, on est à quelque chose comme 82-83 %. Ça veut dire que, puis les réseaux sociaux amplifient ça, on le sait, là, vous en studio comme moi, on est tous sur les réseaux sociaux, puis on voit passer un tas de trucs. Donc, on va amplifier très souvent les extrêmes, et ce sont les extrêmes qui vont occuper l'espace et souvent que récupèrent les médias, puis on a notre part de responsabilité et pas là-dedans parce que c'est ce qui fait jaser, mais les médias récupèrent ça également. Donc, moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai vu et entendu depuis l'assassinat de Charlie Kirk, et tu as bien fait de le dire, il n'y a personne qui devrait cautionner ça. Mais la première chose qui m'a troublé, c'est qu'on puisse rire de ça. Donc, c'est que je sois en accord avec le type ou pas, jamais, mais jamais, c'est le genre de réaction qu'on devrait avoir. Ensuite, j'ai cherché dans les réactions, autant chez les partisans de Kirk, qui étaient à chaud, qui étaient très émotifs, j'ai cherché chez les républicains, chez les démocrates, chez les partisans démocrates, chez ceux qui n'aimaient pas Kirk. Je me dis, quelles sont les voix qui restent maintenant et qui appellent à apaiser? Et malheureusement, j'en trouve trop peu.
Il y a Donald Trump qui a fait un petit appel au calme.
Oui, mais un appel au calme, t'as remarqué la particularité, hein, c'est pas ce qu'Elon Musk vient de... ce que tu viens de nous lire d'Elon Musk, mais clairement, il a brassé la gauche radicale. Ça vient d'eux. Ah, ben, il y a des responsabilités partagées, à mon avis, là-dedans. Et je nie pas, par exemple, qu'une politicienne comme Ilhan Omar, qui a défrayé la chronique aux États-Unis, qui fait partie de ce qu'on appelle, pour ceux qui suivent un peu la politique américaine, de squad. Donc, on considère être des progressistes plus radicaux. Elle y est encore allée de déclarations qui peuvent être fort mal interprétées. Donc, on peut distribuer le blâme, s'il y avait un blâme à distribuer là, pour une rhétorique plus dure, puis parfois plus violente. On peut le faire partout. Mais clairement, c'est très difficile de trouver, ne serait-ce que ça, une condamnation unanime du recours à la violence. Et dans mon texte d'hier, ce que je disais, c'est Il y a beaucoup de gens en entrevue ou des gens qui m'écrivent qui disent « Luc, t'es prof d'histoire, ça ne te rappelle pas les assassinats de Martin Luther King,
les années
JFK. »
Oui, ben oui.
Voilà. Et oui, ça a été, écoute, ça a été une décennie épouvantable. Moi, en classe, je qualifiais ça de psychodrame. Mais il y a toujours eu, au travers de ces moments-là, qui était très intense. La polarisation aux États-Unis, on n'invente pas ça dans les 10 dernières années. Écoute, on a fait une guerre civile. Ça peut-tu être plus polarisé que ça?
Ouais.
Donc, j'entendais des voix faire des appels au calme, puis des voix auxquelles on se raccrochait. Je le sens moins ces temps-ci. Puis c'est le petit doute que j'ai pas de boule de cristal. J'espère que la majorité à laquelle je référais dans les stades va finir par l'emporter. Mais ce serait bien naïf de ne pas s'inquiéter de choses qu'on lit ou qu'on entend. Puis écoute, j'avais pas vu passer, je le suis, Elon Musk, j'avais pas vu passer ce que tu nous as lu. Écoute, c'est plus que troublant. Dans certains cas, on dirait carrément que c'est de l'appel à la haine, la limite de la liberté d'expression.
Ben, we must fight back our murderer. Fait que voilà. Nous devons riposter ou être assassinés. Moi, je vois quelque chose d'un peu toxique là-dedans. Mais tu sais, on a vu la même affaire au Québec, puis ça n'a jamais été sanctionné. Adil Sharkawi, qui est en train de s'adresser à des milliers de personnes, qui fait un appel au meurtre.
Ouais.
La police fait rien, alors que ce gars-là, avec un discours haineux comme ça, aurait dû être rencontré par les policiers puis faire quelques jours de prison.
Et Yannick, quand tu parles de cet individu-là, d'ailleurs, est-ce que quelqu'un nuit plus à sa cause ou nuit plus à un groupe que ce gars-là?
Exact.
On en a de plus en plus de nos concitoyens à Québec qui sont musulmans. Je n'ai jamais entendu, puis j'ai enseigné à beaucoup d'entre eux, je n'ai jamais entendu quelqu'un faire l'apologie de ce type-là. Mais quand on ne sanctionne pas, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui le parle au nom de bien des gens. Et on ne peut pas trouver plus radical que ça. Moi, je suis particulièrement troublé chaque fois que je l'entends.
Mais aux États-Unis, est-ce que là, on crie à la vengeance puis on va laisser pas... Tu sais, quelqu'un qui crie à la vengeance aux États-Unis là, sur la mort de Charlie Kirk, sur les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont à l'extrême, qui vont écouter ces gens-là. Tu sais, Elon Musk, il y a énormément de suiveux qui ne jurent que par cet individu-là. Tu sais, ce serait extrêmement triste que quelqu'un suive les paroles d'Elon Musk puis commette des crimes.
Tout à fait. Puis c'est là où, c'est pas la première fois ça, que ça revient dans l'actualité, mais quand on parle des réseaux sociaux, ils ont presque tous abandonné maintenant. Puis on s'entend pour dire que c'est particulièrement difficile puis que ça relève presque de l'impossible. Mais ils ont tous abandonné la vérification des faits au nom de la liberté d'expression. Puis au nom de la même liberté d'expression, mais qu'il semble pas y avoir de limite sur les réseaux sociaux, on tolère du langage particulièrement violent. Quand je reçois des menaces, par exemple, sur les réseaux sociaux, que j'appelle la police, quand ce sont des menaces qui sont suffisamment sérieuses, on me répond, un, qu'on est débordé, et que si on intervenait, il faudrait que la personne dise exactement, dans les détails, presque l'heure du moment où ça se produit, comment on va procéder à mon endroit. Donc, le fait qu'on ait carrément, sur presque toutes les plateformes, abandonné la modération, ben ça contribue à ça. Et qui est capable, à partir d'ici, par exemple, de sanctionner Meta ou X? Donc, on revient souvent dans ce débat-là, mais on voit les incitatifs, puis on voit les retombées potentielles très graves que ça peut avoir.
Luc, je disais ce matin qu'à l'Université Concordia, j'ai ma nièce qui étudie en communication, puis que il y a des étudiants qui ont tenu des propos comme « c'est bien fait pour Charlie Kirk » avec les opinions politiques qu'ils avaient et les enseignants ne les ont pas ramenés. Toi qui es un ancien enseignant, comment tu aurais repris cette situation-là avec les jeunes?
Écoute, il y a probablement de mes anciens étudiants qui sont à l'écoute puis qui pourraient vous confirmer ça en grand nombre. J'aurais été le premier à intervenir. Je n'ai jamais reculé en classe parce que pour moi, l'histoire sert à éclairer l'actualité. J'ai abordé à peu près tous les sujets avec mes étudiants. Je me rappelle des masculinistes, par exemple, pendant une semaine ou deux, j'ai été le premier à dire « Attendez, on va essayer de comprendre ce que c'est, on va regarder ce que c'est. » Je n'ai pas dit « On va encourager ça. » C'est « Si vous voulez en parler, il faut en parler comme il faut. »
On va étudier le phénomène, c'est ce que tu dis.
Voilà, et le recours à la violence n'est pas si... Écoute, si on le reproche ou si on s'en prend à des gens en disant qu'ils sont violents puis qu'on réagit de la même façon ou qu'on se réjouit de la violence, c'est autoriser la violence contre nous-mêmes que de faire ça. C'est le message que j'envoie. Donc, comme prof, l'important, c'était, il y a des gens assis devant moi, Je ne fais pas de propagande. Je veux qu'on discute de sujets, je vous explique d'où ça vient, on fait le topo d'ensemble, mais il faut se respecter pour être en mesure d'en discuter. Et je ne dis pas que la tâche est facile, je ne dis pas qu'on est parfait tout le temps, mais que des profs ne ramènent pas des étudiants qui se réjouissent de ça, c'est laisser la part belle aussi à un discours haineux. Et je répète, ça vient cautionner la violence qu'on pourrait avoir à notre endroit. Donc, et moi, je pense que ça, c'est écoute, non seulement on se nuit personnellement quand on fait ça,
ouais.
mais on contribue à envenimer le discours puis les attaques qui sont déjà présentes.
Luc Laliberté, on invite les auditeurs à lire ton papier dans le Journal des Québec, Journal de Montréal. C'est toujours un plaisir.
Plaisir à partager toute l'équipe et une bonne journée à tout le monde.
Puis je te souhaite une belle semaine sur les réseaux sociaux, toi qui couvres l'actualité internationale, surtout les États-Unis. Tu vis un beau moment. Je regarde les messages passés. Tu vis des beaux moments ces temps-ci.
Ah, écoute, j'ai envie de te dire, c'est ce que j'ai dit pour les États-Unis, c'est qu'il y a, beaucoup plus de beau, de calme, d'appel au calme.
Ouais.
Il peut y avoir de haine, mais malheureusement, on doit composer aussi avec l'autre volet.
Lâche pas, merci.
Bye.
Luc Laliberté, ex-enseignant de l'histoire de la politique américaine au cégep Garneau et chroniqueur politique pour le groupe Québécois.
Vous l'avez entendu, c'était Luc Laliberté, ancien enseignant d'histoire au cégep, un gars qui est très au fait de ce qui se passe du côté des États-Unis. On revenait ce matin dans Marceau le matin sur ce qui s'est passé la semaine dernière, l'assassinat de Charlie Kirk et ce qui se passe depuis, une grande polarisation du côté des États-Unis. Les extrêmes qui se parlent pas ou quand ils se parlent, c'est pas pour se dire de bien belles choses. En fin de semaine, du côté du Festival Phono, puis le lien est là, mais en même temps, c'est pas une histoire de manque de respect, là, vraiment pas. Quoique, bon, faites chanter à la foule des fuck Donald Trump et fuck Elon Musk, ce dans quoi la foule a embarqué avec un énorme plaisir en forte majorité. Mais c'est un artiste que j'aime beaucoup, Grandson, puis lui, il est très politisé dans ses tunes, là, c'est très politique, puis son dernier album, Inertia, qui est sorti il y a quelques semaines, c'est de la politique du début à la fin, puis c'est un gars qui ne s'en cache pas, là. Il n'est pas un fan, mais pas du tout de Donald Trump et des politiques de Donald Trump. Mais mettons qu'on tasse la politique, ce qui se fait pas vraiment avec l'œuvre de Grandson, là. Parce que je comparerais ça à du Rage Against the Machine. Autant dans les propos que dans le son, on voit clairement qu'il y a de l'influence Rage Against the Machine dans Grandson, qui a donné, pour moi, le show du week-end à Phono. Puis j'ai pu le voir aussi de façon privilégiée vendredi soir, une couple de chanceux qui ont été amenés par l'organisation de Phono. C'était un concours en ligne pour un show privé de Grandson qui a genre fait 6 chansons en acoustique avec son guitariste devant à peu près quelques dizaines de personnes, va avoir à peu près 50 personnes. Mais le lendemain, le samedi, c'était tout autre chose. Après moi, il y a bien des jeunes qui ont vécu leur premier mosh pit samedi dans le coin de l'Université Laval. Retenez ce nom-là. Grandson, pour moi, un des grands, un des meilleurs performers en ce moment dans le rock. Au retour de la pause, on s'en va faire un petit tour du côté de Montréal. Aujourd'hui, c'est tournoi de golf du Canadien de Montréal. Et ce que ça veut dire, c'est que il y a ben des citations qui vont être reprises dans les médias. Puis là, on va virer fou sur une petite phrase dite par Lane Hudson ou dite par Kent Hughes ou par Martin Saint-Louis. Fait qu'on va commencer la suranalyse de tout ça. On va être d'un premier avec Alex Laramé du 99.5 Montréal dans les prochaines minutes.
Je voudrais juste revenir sur ce que disait Max tout à l'heure.
Boulevard 102.1.
C'est un 16 degrés présentement à Québec, 23 attendus aujourd'hui, 26 ressentis avec l'humidex, puis c'est une tabarouette de belles semaines qu'on a en vue, avec juste du soleil, quelques nuages par moment, mais pas de pluie prévue et pas mal de soleil avec des températures de 25-26 jusqu'à jeudi. Dès vendredi, ça se rafraîchit un petit peu, là, autour de 18 les maximums, mais un super beau week-end quand même avec du soleil. Sur les routes, il y a quoi que ce soit, 418-971-1021 par texto. 418-971-1021 le texto. Et pour l'instant, ben, j'ai rien à vous mentionner. Ça va quand même bien sur les routes. Fait que c'est une bonne nouvelle. 418-971-1021, je le répète encore. Oui, pour la route ou s'il se passe quoi que ce soit que vous voulez signaler. Mais vous aimez ça parler de sport aussi. Puis, je pense que c'est le moment de déclarer officiellement la saison 2025-2026 ouverte pour le Canadien de Montréal parce que c'est jour de tournoi de golf. Et pour en parler, on se transporte à l'autre bout de la 20 ou de la 40 selon vos préférences. Alex Laramé du 99.5 Montréal. Salut Alex.
Salut Max.
Ça va?
Ben oui, ça va bien toi? Comment ça peut mal aller en fait? La saison du Canadien commence, tournoi de golf, ça va bien aujourd'hui.
Ben c'est ça, c'est un peu l'ouverture officielle de la saison. Quoi qu'en fin de semaine, on l'avait un petit peu aussi avec le genre de tournoi des recrues qui était disputé du côté du Centre Bell où on a pu voir un certain Ivan Demidov en mettre plein la vue. Puis commençons là d'ailleurs, samedi soir, on a bien vu qu'Ivan Demidov avait aucun rapport dans ce tournoi-là. Il était dans une classe carrément à part.
Non, effectivement, puis c'est un peu le message qu'on avait eu toute la semaine, là. D'ailleurs, Pascal Vincent a été questionné à savoir qu'est-ce que Demidov faisait au camp des recrues. Il disait qu'on voulait pas brûler d'étape. Ben, je pense que justement, il l'a brûlé l'étape, là. Je veux dire, concrètement, c'était visible sur la glace. N'importe qui, j'aurais pu demander à quelqu'un qui avait jamais vu du hockey de me dire qui était le meilleur joueur. Il aurait identifié Ivan Demidov. On a tous vu les séquences, notamment le défenseur des Jets qui est complètement parti dans le vide, foncé dans la bande. Non, vraiment, les changements de vitesse, les mains, la rapidité d'exécution, là, tout, en fait, tout était supérieur du côté de Ivan Demidov. Et évidemment, c'est probablement le seul joueur qui était au camp des recrues. Peut-être un ou deux autres potentiels, mais potentiellement le seul joueur qui va faire l'équipe du Canadien pour le premier match. Et ça paraissait là, définitivement dans les matchs durant le week-end.
Ouais, puis je trouve ça correct en même temps de dire à Ivan, oui, tu vas déjà être un morceau important de notre équipe à court terme, mais théoriquement, sur papier, t'es une recrue au même titre que toutes les autres recrues. Puis dans ce contexte-là, ben tu vas jouer le camp des recrues. Puis après ça, une fois que le premier match a été joué puis qu'on a bien vu qu'il n'était pas à bonne place, ben là, je trouve ça correct de ne pas le faire jouer le deuxième match. Mais pour le premier match, je trouve que c'est un beau message que tu lances à toute l'organisation de dire « Hey, peu importe où tu es repêché, si tu es une recrue, tu pars à la même place que les autres puis tu as les mêmes choses à nous prouver que tout le monde. »
Non, effectivement, puis on peut se rapporter à l'an dernier, l'année de repêchage de Connor Bedard, il y a 12 ans. Connor Bedard était une recrue, puis il avait été questionné à savoir s'il allait faire l'équipe, et lui-même avait dit, écoutez, je dois prouver que j'ai ma place, je vais arriver au camp d'entraînement, le couteau entre les dents, justement pour me tailler une place dans l'effectif des Blackhawks de Chicago. Puis là, on parle d'un premier choix au total, quelqu'un qui était considéré, on se rapporte à il y a 2 ans, comme un joueur générationnel. Bon, il y en a peut-être qui vont remettre ça en question aujourd'hui. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi, Max. C'est totalement normal de l'amener au camp des recrues. Puis justement, on l'a vu, il a joué samedi. Il a été supérieur. Il a été meilleur que tout le monde. Ça vient juste confirmer ce qu'on se doutait. Et définitivement, là, ça va être de le voir dans les matchs préparatoires avec de l'opposition digne de la Ligue nationale. Ça va être super intéressant. Malgré qu'on l'a déjà vu en fin de saison, on sait de quoi il est capable. C'est juste de voir la constance sur 82 matchs et de voir aussi avec qui il va jouer. Là, ça, je pense que c'est la grande question.
Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le tournoi de golf du Canadien avec les joueurs, les membres de l'état-major qui passent devant les journalistes. Puis, tu sais, je le disais un peu en niaisant au début, mais chaque phrase peut être reprise et devenir un grand titre dont on va parler toute la semaine. Fait que faisons le tour ensemble de certaines phrases qui ont été mentionnées ce matin, à commencer par Kent Hughes, le directeur général de l'équipe, qui a mentionné « S'il faut surpayer pour obtenir un joueur qu'on sent qui sera important pour notre futur, on va le faire. » Et ça, j'aime ça. C'est sûr que certains diront « Ouais, côté négociation, d'ouvertement dire aux autres équipes que tu es prêt à surpayer pour un joueur, peut-être pas super. » Mais en même temps, au niveau du message que ça lance à ton équipe, qu'on est rendu là, puis on l'a vu cet été, entre autres, avec l'acquisition de Noah Dobson, ben je trouve que c'est un message qui est très porteur d'espoir et très motivant pour tes gars.
Non, effectivement, il l'avait déjà mentionné aussi dans une de ses conférences de presse. Je ne me souviens plus si c'était après la date limite des transactions ou juste avant le repêchage dans ce coin-là. Il avait mentionné encore une fois qu'il est prêt à surpayer pour aller chercher le bon joueur. Définitivement, c'est encourageant. Puis je crois pas qu'au niveau des négociations, ça peut vraiment affecter ça.
Je pense pas non plus.
Parce que tout le monde le sait que le Canadien, en ce moment, est en ascension. On veut améliorer l'équipe. Et si tu vas chercher un joueur, par exemple, sur les agents libres ou par transaction, un bon joueur, là, par exemple, on dit ça hypothétiquement, mettons un deuxième joueur de centre, là, mettons on aurait besoin avec le Canadien, bien c'est sûr qu'il va falloir surpayer. Les autres équipes donnent pas ce genre de joueur-là, puis un joueur qui se présente aux agents libres, ben c'est pour faire sauter la banque. Donc, on sait qu'on va devoir payer un petit peu plus cher pour ça. Donc, je pense pas qu'il se peinture dans le coin en faisant une citation comme ça. Au contraire, je pense que ça envoie un super beau message à l'équipe de dire « Hey, écoutez les gars, moi, je suis prêt à dépenser. Il n'y aura pas une question de budget. Il n'y aura pas une question de « Hey, on a raté ce gars-là parce que je m'ostinais sur un million de plus par année ou non. » Puis je crois que c'est très encourageant aussi pour les partisans du Canadien. Là, je pense qu'on peut s'attendre à une bonne équipe là, dans cette année puis dans les années futures aussi, évidemment. Là.
Le coach Martin Saint-Louis était questionné sur un certain Kirby Dach. Tu parles de recherche de deuxième centre. Il y en a qui espèrent encore que Kirby Dach puisse devenir ce deuxième centre-là. Saint-Louis qui se dit encouragé par ce qu'a fait Dach pour son retour en shape. Mentionne qu'il lui a parlé beaucoup cet été, qu'il travaille très fort. On sait de quoi il est capable, puis il a tout fait pour revenir à ça. Moi, je vais te dire, là, je fais partie de ceux... Puis je te dirais pas que je gagerais beaucoup d'argent là-dessus, là, mais je fais partie de ceux qui ne ferment pas complètement la porte à ce que Kirby Dach devienne un gars qui a de l'allure sur un deuxième trio. Est-ce qu'il va être le gars qu'on pensait qu'il allait devenir quand il a été un troisième choix au total en 2019 par les Blackhawks? Fort probablement que non. Cela dit, c'est un gars qui a tellement pas joué beaucoup de hockey dans les dernières années que c'était impossible pour lui de prendre son momentum. Il arrivait toujours quelque chose. Le gars est bad lucky comme pas possible. Mais il a encore juste 24 ans. Puis c'est un gars qui est très talentueux. Puis l'année passée, j'ai trouvé que sur les 57 matchs qu'il a joué, ben il y en a eu des bons matchs. Mais Colin, on dirait que ça marche pas. La puck rentre. Moi, j'y crois encore un peu en Kirby Dach. Est-ce que tu es dans cette équipe-là ou tu es dans l'équipe qui compte beaucoup plus de joueurs, de monde qui dit « Non, Kirby Dach va falloir débosser, là, va falloir lâcher prise, ça marchera pas. »
Ben, c'est une bonne question, honnêtement. Je suis un peu entre les deux. J'ai le goût de lui donner la chance cette saison. C'est la dernière année de son contrat, d'ailleurs. Il va devoir signer un nouveau contrat à la fin de l'année. Donc, tout se joue pour lui aussi au niveau monétaire. Honnêtement, c'est difficile, tu l'as dit, il a raté beaucoup de matchs dans les dernières saisons. L'année passée, seulement 57 matchs. L'autre année d'avant, on le sait, deux matchs. C'était blessé en début de saison, blessure catastrophique. Ensuite, 58 matchs l'autre année, 70 matchs. Il n'a jamais joué une année complète. C'est sûr que ça a affecté son développement. Tu l'as dit, ça a été un troisième choix au total. Il y avait de grands espoirs pour lui qu'il n'a jamais vraiment comblé. Mais là, cette année, c'est là que ça joue. Il risque d'avoir une opportunité sur le deuxième trio, potentiellement avec un Ivan Demidov, avec un Patrick Laine. Et on le sait, Kirby Dach, c'est un passeur. C'est pas nécessairement un marqueur de but. Même dans le junior, j'avais marqué plus que 25 buts dans le niveau junior. Donc, c'est vraiment un fabricant de jeu. Là, on va y offrir des armes. Et il y aura pas Josh Anderson à sa droite qui score 15 buts par année. Là, il va avoir des gars qui peuvent en scorer 30, voire 40 buts par année. Donc, selon moi, c'est l'année où ça passe, où ça casse. Je lui donne encore une chance. Mais honnêtement, est-ce que quand je vois la photo du Canadien qui gagne la Coupe Stanley, est-ce que je vois Kirby Dach, deuxième centre du Canadien? Non. Est-ce qu'il peut être un producteur? À la limite, peut-être un ailier? Tu sais, plusieurs parlent de lui à l'aile. Il a déjà joué à l'aile. Ça peut être une option. Mais il va vraiment falloir qu'il prouve cette année qu'il mérite cette place-là. J'ai encore des doutes, mais je donne encore pour une dernière fois la chance au coureur parce qu'on l'a vu, son talent. Il a du talent. Là, c'est de voir sur la glace s'il est capable de le transposer.
Alex Laramie, prochain contrat de Lane Hutson, son premier vrai contrat après son entente comme recrue. Il peut le signer dès maintenant, son contrat qui entrerait en vigueur le 1er juillet prochain. Kent Hughes dit qu'on est confiant de s'entendre. Je ne le verrai pas dire autre chose. Lane Hutson, de son côté, va un peu dans le même sens, mais en disant qu'il laisse son agent travailler là-dessus puis que lui va se concentrer sur jouer au hockey. Tu t'attends à quoi comme entente pour Lane Hutson? Maintenant qu'on a donné un contrat de 8 ans, 9,5 millions à Noah Dobson en faisant son acquisition, est-ce que Lane Hutson, tu vas lui donner exactement ce contrat-là? Est-ce que tu lui donnes plus? Est-ce que tu lui donnes un peu moins?
Si j'étais Kent Hughes, c'est sûr que j'essaie de négocier avec Hudson en lui disant qu'il faut qu'il accepte 9,5 millions par année. Mais de l'autre côté, je me mets à la place, si je suis l'agent de Lane Hudson, ben je demande en haut de 10 millions par année. On l'a vu, des joueurs de la trempe de Lane Hudson, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue nationale. En fait, des joueurs qui jouent comme Lane Hudson, c'est une licorne. C'est le seul dans la Ligue nationale, un aussi petit défenseur qui produit autant de points. Il y a Quinn Hughes, qui a prouvé sa marque, mais c'est pas exactement le même joueur. Quinn Hughes, c'est un joueur beaucoup plus rapide. Lane Hutson est beaucoup plus dans les changements de vitesse, les petits spinoramas qu'il fait à la ligne gauche. Je veux dire, il y a personne qui fait ça dans la Ligue nationale. Selon moi, ça va coûter très cher, mais j'aime la posture de Kent Hughes. On l'a vu avec Caulfield, on l'a vu avec Slavkovski. Il a signé les contrats un an avant la fin de leur contrat recrue. Lane Hutson, il attend. Puis j'aime la stratégie parce que Lane Hutson a quand même connu une saison exceptionnelle l'an dernier. Il a gagné le trophée Calder, battu tout plein de records pour les défenseurs recrues. Donc, je pense qu'il y a quand même une partie de Hughes qui met sur le fait que, pas qu'il va avoir une mauvaise année, mais qu'il pourrait avoir une année semblable, tu sais, peut-être sans faire plus de points. T'sais, s'il fait 60 points cette année, on va être très content, mais ça va rester à peu près la même production qu'il avait eu l'an dernier. Je pense que de mémoire, il avait fini avec 66 points. Donc, et de miser sur une saison peut-être pas supérieure à celle qu'il a fait l'an dernier, ça pourrait l'aider dans les négociations, peut-être de ramener le prix autour de 10 millions de dollars, mais on s'entend, si Lane Hutson fait un point par année, termine aux alentours de 80 points, je vois difficilement comment, surtout avec l'augmentation du plafond salarial, exact. Je vois difficilement comment il pourrait signer un contrat en bas de 11 millions. Là. Ça va coûter cher, mais pour du talent, ça vaut la peine.
En terminant, Alex, je veux qu'on parle des propos de Brandon Gallagher qu'il a tenu dans les dernières minutes au tournoi de golf du Canadien. Brandon Gallagher qui dit qu'on a encore un goût amer en bouche parce qu'on sentait qu'on aurait pu en faire plus la saison passée. Et ça, c'est du Brandon Gallagher tout craché. Le Canadien a surpris tout le monde en se taillant une place en série, en tenant tête aux puissants Capitals de Washington. Puis Brandon Gallagher arrive au tournoi de golf en disant « On a un goût amer en bouche, on sent qu'on aurait pu en faire davantage. »
Ben c'est certain, c'est ça qu'on va entendre aussi des joueurs du Canadien. On veut pas qu'eux soient satisfaits à être éliminés en première ronde.
Il est affamé.
Ben oui, j'espère bien qu'ils sont affamés parce que, faut se souvenir, l'année passée, on avait eu un très mauvais début de saison. Finalement, on s'était rattrapé en fin de saison. C'est ça qui nous avait permis de faire les séries. Mais si on regarde le nombre de points qu'on avait, habituellement, dans une saison plus régulière, si on peut dire, on peut pas rentrer en série avec le nombre de points qu'on avait l'an dernier. Donc, ça va prendre une progression. Il va falloir mieux jouer. Ça va nous permettre justement d'accéder aux séries et là d'aller encore plus loin parce que c'est sûr que si on est les joueurs du Canadien, on veut pas s'arrêter en première ronde, on veut encore progresser. Puis pour Gallagher aussi, l'enjeu c'est que lui l'horloge continue là, lui il commence à être un petit peu vieux, donc il a pas le temps nécessairement qu'on gagne la coupe dans 5 ans. Lui il veut gagner maintenant, donc je comprends ses propos. Par contre, les propos dans l'état-major, on a vu Kent Hughes, on se souvient l'année passée, le mot d'ordre, c'était le mix. On voulait être dans le mix. Là, on semble parler plus. On a l'équipe la plus talentueuse. On a le plus de talent qu'on a jamais eu depuis que l'état-major est arrivé, Gorton Hughes. Donc, on sent qu'on... On dirait, en tout cas, c'est mon impression, on dirait qu'on veut pas trop se mouiller. Là. On dit qu'on est plus talentueux, qu'on devrait avoir une progression sans vouloir affirmer nécessairement qu'on veut prendre, par exemple, en deuxième ronde ou qu'on vise la coupe. Mais c'est sûr que c'est le but ultime, là, puis on se le souhaite à tous nos partisans du Canadien. Surtout les gens de notre âge, Max, nous, on n'a pas eu beaucoup de succès là, Canadien dans notre vivant, donc on espère qu'on va se rendre un petit peu plus loin. Salut.
Alex Laramie, journaliste au 99.5 Montréal, vous pouvez aussi l'entendre au sport dans Gravel dans le retour. Merci, Alex.
Hey, on se refait ça bientôt. Ciao.
Yes, tournoi de golf du Canadien de Montréal aujourd'hui. De la suranalyse de citations. Vous allez en entendre beaucoup dans les prochaines heures. Mais qu'est-ce que vous voulez? On adore ça, le hockey au Québec. Puis au Québec, notre sport national, c'est pas le hockey. C'est de jaser de hockey, j'ai l'impression, des fois. Dans les prochaines minutes, Audrey Pinchot s'en vient avec l'Open Mic.
Le Point de Max. Jusqu'à midi, le Point de Max.
Encore un petit peu moins d'une heure à faire dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Il est 11h05 si vous voulez réagir à quoi que ce soit par texto 418-971-1021. Et d'ailleurs, un dossier chaud de l'actualité aujourd'hui à Québec, c'est ce référendum qui n'a pas passé du côté du pour ce qui est du projet carré de Tracy, projet résidentiel, où on voulait installer des unités d'habitation dans un secteur qui est occupé par de la nature présentement. Et ça prenait un référendum pour venir changer les réglementations pour permettre ce projet-là. Puis on a reçu un texto un petit peu plus tôt dans le show qui nous mentionnait pourquoi on n'était pas en faveur du changement. Et là, dans les dernières minutes, il y a un texto super intéressant qui est rentré, qui va un peu dans le sens contraire. « Bonjour, au sujet du référendum au projet carré de Tracy, j'ai voté oui au projet. Ça fait 65 ans que j'habite Beau-Royal et c'était que du bois. Je voudrais dire au monde qui ont voté non, qu'avant qu'eux autres, ils se bâtissent leur maison, ben les alentours, c'était une partie de la forêt. Puis c'est ça qui est parti, salut et merci. Fait qu'on a comme un peu les deux côtés de la médaille. Puis c'est vrai que c'est un peu toujours intéressant de se dire que, ouais, j'avoue que si moi, je vote non référendum, ben dans plusieurs années, ben c'est peut-être mon fils qui va être pogné pour se chercher une maison puis qui aurait pu habiter là, puis c'est une façon de le voir. Puis en même temps, comme je vous mentionnais, le promoteur qui s'engageait à donner une majorité du terrain, pas à donner, là, mais à vendre à la ville une majorité du terrain pour justement laisser de l'espace naturel. Fait que ça vient un peu dire à ceux qui disaient « Ouais, ben là, on vote non parce qu'on va tout perdre notre nature, tout ça. » Ouais, pas vraiment. Le plan, c'était quand même de garder une majorité d'espaces naturels. Mais bref, ça n'a pas passé. Fait que là, ça sera de voir dans ce secteur-là qu'est-ce qui va se produire. Il est 11h avant d'aller rejoindre Audrey Pinchot. Rejoindre Audrey Pinchot directement devant moi. Petite dernière nouvelle de dernière heure. Quant à Dominique Laroche, vous mentionnez qu'il va rester détenu. A été reconnu coupable la semaine passée là, pour des crimes sexuels. Puis là, on se demande OK, est-ce qu'il va rester en dedans en attendant qu'on lui donne sa peine? Est-ce qu'il va rester en liberté? Ben, la juge trouvait que les garanties qui étaient offertes par la défense, ben, c'était pas assez. Ça fait que Dominique Laroche, il va rester en dedans le temps du reste des procédures. Audrey Pinchot, salut!
Hello!
Ça va?
Ça va, toi?
Beau week-end?
Oui, quand même!
Tu es à la course?
Même. Si un matin, ça en est une
ça
qui roule.
Vite.
Ça va vite ce matin. Mais je me dépose, là, je me dépose avec toi.
Ben oui, prends ton temps. On n'est pas stressé.
Ben, je vois ça. T'es, c'est drôle, hein? Je rentre ici en studio avec toi, puis il y a toujours un mood qui est comme très différent.
C'est-à-dire?
Très. Moi, je suis quelqu'un qui roule à pine à planche, ça va vite. Puis t'es probablement une des personnes que je connais qui est le moins stressé dans mon entourage.
Je suis pas un gars stressé.
Non, vraiment pas. Puis c'est toujours perturbant parce que c'est comme si l'atmosphère change radicalement.
Mais c'est bon, ça.
Ben oui, totalement. Mais là, écoute, je suis en train de... Je reviens là.
Mais c'est pour ça qu'on fait une belle équipe. C'est que une personne tout le temps stressée comme toi... J'exagère un peu, mais t'as plus tendance à être stressé que moi, puis là, t'as moi. Fait que là, dans l'équilibre, on est une personne juste assez stressée.
Le yin et le yang.
C'est ça.
Voilà.
Parce que moi, des fois, je suis pas assez stressé. Des fois, faudrait, puis là... mais bref, on a un bel équilibre.
J'ai un sujet à proposer ce matin qui...
J'espère que je vais dire oui. Parce que sinon...
Il est trop tard! Non, mais on s'est dit que chaque lundi, on essaierait de faire un sujet un peu plus psy.
Oui.
Puis, je cherche toujours à vous rejoindre le plus possible, les auditeurs, tu sais, à trouver des sujets qui vont vous faire réagir ou qui peut-être vous touchent au quotidien. Puis, je suis tombée sur un article de Slate, qui est une plateforme qui fait des blogs, puis des articles sur toutes sortes de sujets. Puis, il y avait des données là-dedans, tu sais, que je trouvais intéressantes. Et c'est un sujet qui touche les gars face au célibat. La souffrance des hommes face au célibat.
Okay? Oh.
C'est de ça qu'on traite. Puis là, j'ai vraiment envie que vous soyez avec nous ce matin, autant sur le Twitch, twitch.tv/BLVD/FM, ou sur le texto 88-971-1021, à savoir si vous vous êtes déjà reconnu dans tout ce qui va se dire aujourd'hui, si vous le vivez, si c'est quelque chose qui résonne pour vous ou pas. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'il y a des recherches récentes où on mentionne que les hommes célibataires, surtout hétérosexuels, le fait qu'on est dans une généralité, rapportent une moins bonne santé mentale et physique que les femmes dans la même situation. Okay. Fait que les hommes vivraient le célibat de façon pas mal plus difficile. Puis là, ben, on parle des enjeux de société sur le fait qu'on laisse pas de place aux émotions des gars, puis que les gars retrouvent peut-être cet espace-là pour laisser aller leurs émotions dans une relation. Puis quand ils ont pas ça, ben, ils sont pas capables de le faire. T'sais, bon, tu vois un peu le bassin dans lequel on se promène. Puis on va loin, là, dans cet article-là. On va même à parler... De tout ce qui est les incels, t'en as sûrement déjà entendu parler,
oui.
La misogynie, bon, que les hommes vont avoir une tendance à finir par détester les femmes quand elles sont pas capables de trouver une partenaire. Je trouve ça, je m'excuse l'anglicisme, là, fucked up. Puis là, je me suis mis à lire ça, puis à tomber là-dedans, puis à tomber dans un trou noir, puis je me suis dit, bon, ben un, ça me prend un homme pour nous en parler. Vous êtes de deux générations, je trouve ça intéressant, parce que je veux, Max, aussi ton avis là-dedans, puis je veux voir comment tu perçois ça, toi qui es célibataire, mais qui est quand même en chasse régulièrement, là, tu côtoies des femmes dans ta vie.
J'aime pas le terme être à la chasse, Audrey, c'est très péjoratif.
Comment tu veux que j'amène ça?
J'essaie de trouver l'amour de ma vie.
Tu vas à la pêche, oui, pour l'amour
non,
de ta vie.
Non, arrête de pas de chasse et pêche. Je suis pas un gars de chasse et pêche, moi. Moi, je swipe sur Tinder.
OK. J'essayais de mettre ça beau. Donc, Guillaume Dulotte qui est avec nous aujourd'hui, fondateur de Psycom, vous le connaissez, se spécialise dans tout ce qui est psychologie, enseigne la psychologie des relations humaines, communication interpersonnelle et compagnie. C'est un sujet que j'avais vraiment hâte qu'on l'aborde, Guillaume. Premièrement, bon matin, comment tu vas?
Ben bon matin à vous deux. Très content d'être là. Merci de l'invitation.
C'est toujours un plaisir. Bon, tu m'as entendu un peu introduire le sujet. J'ai envie de te demander, avant tout, est-ce que tu penses que c'est vrai tout ce qu'on dit dans cet article-là sur les hommes célibataires qui vivent moins bien cette période seuls-là que les femmes?
OK, ben dans cet article-là dont tu fais référence, il y a certaines choses qui sont vraies, puis il y a certaines choses qui sont pas vraies. C'est vrai que les hommes souffrent beaucoup plus de solitude que les femmes. Donc, en général, les hommes sont plus dépendants de l'approbation des femmes que les femmes sont dépendantes de l'approbation des hommes. Les femmes ont beaucoup plus de versatilité et de cordes à leur arc socialement que les hommes. Donc, les femmes ont plus tendance à tisser des réseaux sociaux multiples, entretenir des amis, entretenir des amitiés à long terme. Les hommes, c'est moins comme ça.
Pourquoi? Hein? Oh, on a-tu perdu Guillaume?
On a perdu Guillaume, on va essayer de le retrouver.
La question que j'allais poser puis que je me pose souvent, c'est moi, de ma perception de femme, dans toute ma vie, j'ai toujours eu l'impression que les gars étaient plus sociaux, que les gars étaient plus avaient plus de facilité, je veux dire, à se créer un cercle. Tu sais, on entend souvent parler de la fameuse chambre de hockey, là, tu sais, des gangs de gars qui sortent, qui ont du fun ensemble, qui... Je sais pas, j'ai toujours perçu le côté social plus développé, mettons, chez les gars que chez la femme, pourtant.
Ouais, ben c'est... mais en effet, c'est quand même complexe. J'ai l'impression que peut-être des fois... Sans dire que c'est superficiel, des amitiés de chambre de hockey, ben c'est rare, tu vas dans le profond. Alors que les femmes vont peut-être avoir trois, tu sais, la petite gang classique de 3, 4, 5 amis, mais qu'on va aller plus dans les grandes discussions puis dans les émotions. Alors que pour les gars, ben dans une chambre de hockey, ben c'est bien rare qu'on va peut-être s'ouvrir sur nos émotions.
Ça fait du sens. Guillaume qui est de retour. La question...
Oui, je sais pas pourquoi. j'ai été kické hard, comme on dit, mais je suis de retour.
La question que j'allais te poser, Guillaume, c'est par rapport au fait que de ma perception comme femme, moi, tu vois, j'ai toujours eu le sentiment que les gars avaient cette gang-là, tu sais, la gang de boys, ça sortait, célibataire, je veux dire, ça se faisait aller, ça avait du plaisir. C'était plus facile pour l'homme, je sentais, le célibat puis le côté social que pour la femme, visiblement, c'est une perception, là.
Je dirais oui, jusqu'à un certain niveau, c'est-à-dire que les relations vont être moins intimes, ça va être plus superficiel, tandis que les femmes ont plus de capacité à développer de l'intimité au sens large, entretenir différents types d'intérêts, de passions, de milieux stimulants dans leur vie. Il y a des différences entre les hommes et les femmes. Donc, les hommes et les femmes sont principalement similaires sur la plupart des variables, mais il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et pour les hommes, la valeur de l'approbation féminine, c'est de loin le standard, quasiment numéro un. Tandis que pour les femmes, c'est beaucoup plus versatile, ça a plusieurs cordes à leur arc, ça fait partie des choses importantes, mais des hommes, c'est beaucoup, beaucoup plus dépendant de l'approbation, d'une femme. Ce qui fait en sorte que s'ils l'ont pas, ils vont en souffrir beaucoup, beaucoup plus en étant seuls, souffrir plus de solitude qu'une femme qui est célibataire.
Ça peut-tu expliquer un peu aussi pourquoi un gars qui est célibataire va être beaucoup sur les applications de rencontre, puis que ça peut être, tu sais, si t'as pas l'attention puis l'approbation d'une femme, ben ça va être d'aller en chercher de plusieurs femmes, puis...
Oui, tout à fait. Pour les hommes, c'est comme que c'est une question quasiment de vie ou de mort d'avoir cette approbation-là, d'être sélectionné. Alors, le processus de sélection naturelle qui relève pas là, des 10 dernières années, qui relève de plusieurs centaines de milliers d'années, ce sont les femmes qui dirigent le processus de sélection. C'est sûr que dans les relations humaines, c'est une sélection qui est mutuelle, mais le goulot d'étranglement, c'est la sélection féminine parce que les critères sont beaucoup plus sévères parce que les responsabilités biologiques des femmes sont beaucoup plus grandes que celles des hommes. Donc, pour contrebalancer cette responsabilité-là, les femmes doivent avoir plus de pouvoir en termes de sélection et de critères, ce qui fait en sorte que ce qui décide un peu de l'humanité et des associations hommes-femmes, c'est plus les femmes qui dirigent et qui contrôlent la game, comme on dit.
Pourtant, on n'a pas toujours cette impression-là. C'est ça que je trouve fascinant. Texto qui est rentré. J'ai l'impression que la vie sépare les amis masculins et ils ont de la difficulté à se refaire un réseau. Souvent, notre réseau est très circonstanciel. Ça dépend du travail ou d'une organisation certaine. Puis quand on perd ça, on est peut-être un peu plus sans repère, là. C'est ce qu'on nous dit sur le texto.
Oui, puis je pense que c'est une bonne chose de promouvoir le fait de développer des réseaux sociaux intimes à l'extérieur uniquement de la relation amoureuse. La plupart des consultations en psychothérapie chez les hommes, c'est suite à une rupture, c'est suite à un abandon amoureux. Tandis que les femmes consultent pour beaucoup plus grande palette de raisons. Les hommes, si tu veux le mettre à terre, ça va prendre un divorce, c'est le fait d'être laissé. C'est ça qui va le mettre à terre vraiment, puis c'est ça qui va le remettre là, dans ses derniers retranchements. Puis là, il va consulter beaucoup, beaucoup pour ça, beaucoup plus que les femmes. Donc, les hommes sont beaucoup plus sensibles au rejet féminin que les femmes sont sensibles au rejet masculin.
Pourquoi on critique beaucoup le célibat, tiens, je veux dire, chez les hommes plutôt que chez les femmes? Tu sais, on dirait qu'une femme qui est célibataire, là, moi, j'ai souvent entendu dans ma vie le « strong and independent woman » ou « don't need no man », là. Puis l'homme, on dirait que quand il est célibataire, ben on a la critique plus facile de « il y a une raison probablement pour laquelle il est célibataire ».
Là, mes chers amis, vous êtes conscients qu'on rentre tout droit dans des sujets extrêmement tabous et extrêmement
polarisés. C'est ce que j'aime.
Hein? On est dans ça, n'est-ce pas? Et allons-y. Donc, il y a différents courants récemment qui mettent de l'avant l'indépendance de la femme et ça pousse assez loin. C'est-à-dire, on est rendu maintenant où on valorise une femme qui se dit capable de se passer des hommes et même lever le nez là-dessus. C'est-à-dire, moi, je suis mieux que le fait qu'être dans avec un homme. Donc, on glorifie le fait de dire, moi, je suis plus forte que ça. Et ça va plus loin. C'est quasiment une forme de faiblesse, de, entre guillemets, s'abaisser à avoir une relation avec un homme. Alors, ce qui est complètement sidérant, ça n'a pas rapport avec ça, mais c'est comme une mode. C'est-à-dire, si on veut être vraiment fort, si on veut être une vraie femme indépendante, ça veut dire qu'il faut avoir le pouvoir de ne pas avoir besoin d'un homme. Alors que les hommes continuent de vouloir, sont intéressés d'être avec une femme. Donc là, d'une part, on fait la promotion qu'une femme qui se passe d'un homme, c'est une femme forte, alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est un courant idéologique du moment. L'autre chose qui est contextuelle à notre période en ce moment, c'est que les standards des femmes ont changé. Alors là, on rentre dans peut-être un petit peu plus tabou, là, puis c'est peut-être pas toujours le fun à entendre, mais les hommes et les femmes s'associent par appariement et selon ce qu'ils sentent qui est leur valeur hiérarchique. C'est-à-dire, il y a des systèmes internes que tous les humains possèdent pour se donner, s'attribuer une valeur dans un contexte social, dans une hiérarchie sociale. Et les associations ont tendance à se pairer. C'est-à-dire, mettons, ça s'appelle l'hypothèse du match. Donc, si, puis faire une espèce de métaphore assez simple, mais il y a quand même des études qui vont dans ce sens-là, c'est que si une personne se dit, moi, là, je vaux un 6 sur 10, OK? On se donne une cote 6 sur 10. Instinctivement, tu vas aller chercher une personne autour de 6 sur 10. Une personne n'irait pas s'attaquer à un 8, 9 sur 10 parce que les risques de rejet sont trop grands et ça fait trop mal. Donc, les gens, en général, ont une espèce d'appariement qui est relativement naturel sur leur valeur sociale. Donc, les 6, mettons, vont aller être ensemble. Les 3 vont être ensemble. Les 9 vont être ensemble. Ça, c'est la normalité. Maintenant, il y a des critères qui ont changé chez les femmes, c'est-à-dire une femme, mettons, qui est un 6, ben elle veut un 9 puis un 10 pour elle. Donc, elle ne veut plus quelque chose qui est apparié. Donc, les standards ont changé et ça fait en sorte que les hommes ne sont pas capables de satisfaire les nouveaux standards mis de l'avant ou recherchés par les femmes. Et ce que ça fait en sorte que les femmes disent qu'ils ne trouvent jamais quelqu'un qui est assez bon pour elles et aussi glorifient le fait qu'être seule, de toute façon, c'est mieux. Les deux conséquences de ça, c'est que ça s'appelle l'isolement et ça veut dire que personne ne va être en couple avec personne et que les hommes vont rester tout seul,
Oui, parce que
alors que les autres, leurs critères ne changent pas tant que ça. Ils veulent être en couple, ils veulent quelqu'un qui est apparié à eux, mais les critères des femmes ont nettement changé.
Ben, tu vois, Guillaume, je t'amène le sens inverse. Puis c'est une game d'impression, hein? Mais l'impression que je vais parler, les femmes autour de moi, puis dans mon entourage, on a, c'est souvent que l'homme cherche le pétard, mais il est, par exemple, un 5 sur 10, tu sais. Fait qu'il y a des exigences envers la femme, mais des exigences qui s'imposent pas à lui-même. Comprends-tu un peu ce que je veux dire? J'ai comme l'impression que chacun
Ouais.
dans son camp a un peu les mêmes visions.
C'est possible. Ce que je te nomme là, ce sont des tendances qu'on a mesurées là, dernièrement, surtout dans les générations un peu plus jeunes, donc génération Z. C'est la génération qui a le plus tendance à voir les choses comme ça, c'est-à-dire moi, je mérite mieux. Mais d'un autre côté, c'est comme, oui, mais ta valeur à toi fait en sorte que tu devrais être à Paris avec quelqu'un qui te ressemble, si tu veux. Alors, il y a comme une espèce d'espoir de, moi, je veux toujours mieux, mais les hommes, eux, espèrent pas nécessairement toujours mieux. Ceci dit, après ça, dans le discours populaire, ben là, il y a toutes sortes d'impressions qui rentrent en ligne de compte, un petit peu comme ce que tu racontes. T'sais, on cherche tout le temps quelqu'un qui est mieux, quelqu'un qui est mieux. C'est vrai, tu sais, à quelque part, il y a une impression de tout ça, mais d'un autre côté, il y a une littérature qui montre qu'il y a un fossé énorme qui se creuse entre les hommes et les femmes. Pas parce que les hommes ne veulent pas être en couple, c'est parce que les femmes veulent de moins en moins être en couple ou que les standards sont carrément impossibles. C'est ce qui augmente l'isolement des hommes qui se sentent de plus en plus, je dirais, misérables et isolés.
Ben justement, les conséquences du phénomène que tu nous décris là, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y aura nécessairement un retour du balancier à un moment donné, parce que sinon, il n'y a plus rien qui va marcher?
Ben, le futur, on ne le connaît pas. C'est sûr que je le souhaite. Moi, je suis un gars pro-relation, pro-relation long terme, épanouissement. Par contre, il faut comme avoir une espèce de vision ajustée de soi-même pour dire si je veux un candidat qui me convient, ça me prend une perception ajustée de moi, puisque je dois viser quelque chose qui me convient. Donc, si, mettons, par des processus narcissiques, tu as une perception de toi qui est déconnectée de ta valeur, ce qui est également à mesurer en ce moment. Il y a une augmentation du narcissisme. Donc, si tu te vois de façon mieux que la réalité, ce qui est en partie une définition du narcissisme, mais ça veut dire que tu recherches des critères ou des personnes qui, dans le fond, n'ont rien à voir avec toi. Donc, tu es dans une pure illusion qui va faire en sorte que tu vas, on va se refermer d'une part et d'autre. Donc, les hommes vont se refermer, les femmes vont se refermer. Et la conséquence de ça, c'est que les gens ne veulent plus être en couple ou lève le nez là-dessus et abandonne l'idée, évidemment, sans dire ben, ah, je suis déçu de ne pas être en couple. C'est dans le fond, c'est parce que je ne suis pas reconnu à ma juste valeur et l'environnement n'accote pas mes standards.
Hey, c'est triste, là, je t'écoute puis je trouve ça.
Mais tellement intéressant.
Hey, moi, je trouve ça fascinant. Moi, Guillaume.
Et non
je,
seulement triste, mais c'est dangereux. Ce sont des processus qu'on va appeler anti-relationnels. Donc, les processus qui créent l'isolement chez les humains, c'est la meilleure recette pour de la violence, pour le fait d'en vouloir à l'environnement, être insatisfait, mais pas être capable de se regarder dans le blanc des yeux puis se dire, là, je pense que je devrais peut-être être plus conscient de où je suis rendu dans la vie puis ce que je vise réellement au lieu de viser quelque chose qui va rassurer, entre guillemets, l'image de moi. Et on ne peut pas dissocier l'impact des médias sociaux de ça. Les médias sociaux rehaussent une image théorique de toi qui est filtrée et qui donne l'illusion d'une certaine valeur, ce qui n'a rien à voir avec la réalité. Et comme les médias sociaux, c'est une game d'image, les femmes sont plus sujettes à être influencées par ça, par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux influencent plus les jeunes femmes que les jeunes hommes. Les jeunes hommes, c'est un petit peu plus la porn ou les jeux vidéo, toutes sortes d'autres types d'échappatoires. Mais les réseaux sociaux, c'est une game de comparaison sociale et les jeunes femmes sont beaucoup plus susceptibles d'être influencées par ça.
Mais veux-tu donc, bien me dire comment on sort de là? J'ai envie de dire, je t'écoute et je suis stressée. Ouais. Moi, ça fait pas si longtemps que je suis séparée. Puis c'est une peur que j'ai toujours eue, le célibat. Puis pas parce que je suis pas capable d'être seule dans la vie, mais parce que justement, ces patterns-là sociaux me terrifient là, au final.
Oui, je pense qu'on a raison d'être terrifié de ça. En fait, tous les processus qui créent des divisions sociales, en commençant par des divisions entre les hommes et les femmes, sont corrosifs. Donc, toutes les idéologies qui ont tendance à mettre des groupes contre les autres, c'est carrément un cancer social et c'est fuelé par les médias sociaux, mais également les courants idéologiques et la politique là, qui se mêle un petit peu là-dedans. Donc, il faut vraiment se battre pour lutter contre ça et empêcher les processus de division entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire, en premier, empêcher la compétition entre les hommes et les femmes parce qu'on est rendu dans une ère où les femmes veulent compétitionner alors que c'est pas... Tu peux compétitionner puis dire « on va gagner contre les hommes », mais à court terme, même si tu gagnes, ça ne créera pas plus de relations à long terme.
Puis est-ce que là-dedans, il y a aussi une compétition qui peut entrer entre les femmes? On parlait des réseaux sociaux, on parle des fois des femmes qui... Puis, c'est horrible d'appeler ça comme ça, mais des trophées. Tu sais, le gars, il est fier d'avoir sa blonde qui est un trophée, qui est une super belle femme.
Oui.
Pour les femmes, d'avoir un bel homme, ces réseaux sociaux, puis il faut que ce soit un 10 sur 10, puis ça peut entrer aussi.
Oui, ça peut entrer aussi, mais c'est un peu différent. C'est parce que les hommes, c'est pas un bon comportement à valoriser, mais les hommes sont tellement fiers d'avoir été choisis parce que la plus grande fierté d'un homme, c'est d'être choisi. Et plus tu es choisi par une femme qui a de la valeur ou qui t'attire, plus c'est le sommet du succès. Donc, pour un homme, c'est très difficile de le développer psychologiquement s'il n'est pas capable d'être en relation positive et créer de l'intimité avec des femmes. C'est comme son plafond. Tu peux pas développer un homme si tu lui apprends pas à être en interaction avec des femmes et créer de l'intimité positive avec des femmes. Donc, quand un homme réussit à être sélectionné par une femme, c'est comme la fin du monde. Mais évidemment, tu peux être fier d'être sélectionné, mais la question, c'est est-ce que tu es sélectionné puis tu es content, mais est-ce que tu bâtis une relation ou ça devient simplement un trophée, ce qui est comme pas adapté non plus. Ce qu'on veut, c'est oui, être content d'être sélectionné, mais c'est le début du trouble. C'est-à-dire, le trouble, c'est bâtir ce qu'on appelle de l'attachement. Et c'est le début du travail. Donc, c'est bien beau être sélectionné, mais c'est comme, c'est juste le début de l'aventure. Mais les gens s'assoient là-dessus, puis c'est comme, ça y est. Non, ça y est, rien. C'est une construction, une relation, puis c'est le début de l'intimité, puis du vrai travail. C'est ça qu'on devrait voir.
On est vraiment des animaux, là, déjà. Je t'écoute parler, puis je regarde un peu les... On voit d'où on vient. Des fois, c'est ce que je réalise quand on revient à la base de ces principes-là. Guillaume, on n'aura pas le choix de se laisser aller, mais on n'aura pas le choix non plus de faire une suite à ce sujet-là parce que dans cet article-là, on parlait à un certain point dans l'absence de partenaire qu'il y a des hommes qui ressentent un vide tellement intense qu'ils en développent une colère qui dérape des fois sur des discours misogynes. Tu sais, les fameux incels, là, incels, là. J'ai comme l'impression qu'on a un tout autre pan qui peut s'ouvrir de ce côté-là.
Absolument.
Fait que je propose une prise deux éventuellement, puis merci énormément de ton temps ce matin.
Bien, ça fait plaisir. Merci de votre confiance. Merci de votre ouverture d'esprit à vous puis tous les auditeurs, puis en espérant que ça contribue à nous donner le goût de dire, hey, je pense que justement, les hommes et les femmes, c'est l'équipe numéro un. La pire chose, c'est développer un discours, propager un discours qui ne crée pas des associations. Il faut vraiment, vraiment se battre contre ça.
Ça fait réfléchir, définitivement. Je te souhaite une belle journée, Guillaume.
Merci.
Merci, les amis. À bientôt.
Guillaume Dulude, fondateur de Psycom, se spécialise dans tout ce qui est psychologie, relations humaines, communication interpersonnelle. Je trouve ça effrayant. Vous nous direz si ça vous a intéressé. Je lis les textos, il y en a une couple qui entre là. Définitivement, des gens qui ont des choses à dire sur le sujet. On pourra peut-être le reprendre. Je pourrais parler de ça pendant des heures.
Absolument, clairement. On regardera si c'est possible lundi prochain. Là, déjà hâte d'en reparler.
Salut, Max.
Salut Audrey.
Il faut déjà qu'on se quitte.
Je sais. Au retour.
Je te vois plein de le temps file.
Ouais, mais je suis pas un gars stressé, tu le sais. Au retour, Pascal CV. 11h37 minutes dans le Point de Max. Vous êtes nombreux à réagir à la conversation qu'on avait avec Guillaume Dulude dans les dernières minutes. Et vous allez continuer de réagir, j'ai l'impression, parce que Pascal CV vient d'arriver en studio. 88-971-1021, Pascal. T'as l'air bien excité de ce que tu me rapportes ce matin.
Ouais, je suis un peu excitée parce que je me demande où est la limite. Puis clairement, j'ai pas le cerveau qui est assez intelligent, assez brillant pour me rendre au niveau de ceux qui font du marketing.
OK.
Puis il y en a qui sont mauvais. On a vu des gens de chansons, de campagnes électorales qui sont semi avec l'intelligence artificielle. Mais il y en a qui font des jingles de quincaillerie, puis qui sont complètement génies, même si le jingle, tu te dis, c'est pas le meilleur, mais puis ce qui pogne dans la tête, puis tu sais, c'est une vocation, hein, attirer l'attention, puis faire de la publicité.
C'est un monde qui est très particulier, le marketing. Puis la ligne entre quelque chose qui est du génie, puis quelque chose qui est désastreux, est excessivement mince, puis des fois... C'est le fait que ce soit désastreux qui transforme quelque chose en génie.
Vois-tu, le jingle de Maxime Bernier il y a quelques années, je trouve que c'est du génie. Celui de Justin Trudeau avec levé la main bien haute, je trouve que c'est complètement manqué.
Ouais.
Mais la ligne est mince, comme tu dis.
Exact.
Après, à travers les années, ben, on a interdit la publicité faite sur les enfants. Hein? Tu te souviens, à la télé, avant, on pouvait nous vendre un jouet puis voir des petites faces d'enfants puis là se reconnaître de façon consciente ou inconsciente. Puis... on s'est dit non, ça fait pas de sens. Mm-hmm. Parce que l'enfant n'a pas à être visé comme un objet de consommation et de marketing, OK? Et là, ça touche quelque chose de très fragile, ce que je m'en vais te parler. On oublie les gens qui ont besoin de ça. Mais en fait, je trouve que on est extrêmement méchant et mesquin à l'endroit de ceux qui ont besoin d'un peu d'ésotérie dans leur vie. T'sais, l'horoscope, les voyants, les voyantes. Quand tu parles d'intelligence artificielle, il y a toujours des experts qui vont dire « Parfait, vous êtes en train de l'alimenter, mais à un moment donné, une entreprise va pouvoir donner 100 000 $ à ton chat GPT de ce monde pour qu'il te dise « Ah, oh, t'as mal à la tête, va donc chercher telle bombe ou telle pilule. » Puis finalement, ce ne sera pas la meilleure recommandation, mais c'est parce que ça va avoir été payé. Et là, imagine-toi. Tu t'en vas manger dans un restaurant asiatique. T'es content, t'es avec ta petite blonde. La vie va bien. Ou encore, tu t'en vas manger seul au restaurant asiatique. Ça va pas. Ta vie a besoin de sens, puis t'attends ton biscuit chinois. Tu l'attends, là, pas pour manger ce qui goûte le papier sablé puis le corpote, là. Tu l'attends pour le petit papier à l'intérieur.
C'est le fun, là. Moi, il y en a, là, à cette heure dans la région, qu'ils mettent des affaires comme des petites blagues, ça m'énerve.
Ouais,
c'est pas ça que
non,
je veux.
Non, ça, c'est dans les gommes bazooka. Ce qui est dans un biscuit chinois, c'est la sagesse.
C'est ça. Moi, je veux quelque chose qui va dicter comment j'agis dans les prochains jours.
Exactement. Puis moi, je me souviens d'un qui c'était « On dit du bien de vous ». Hey, ça m'a fait du bien dans cette période de ma vie.
Mais c'est vrai.
Je m'en souviens d'un autre qui est « Vous avez besoin d'être seul et d'être dans votre bulle. » J'étais comme « Vous m'avez jamais aussi bien décrit, petit biscuit chinois. » Puis ça m'a ramené à l'essentiel.
Exact.
On est tous marqués par un biscuit ou un autre. Mais sache maintenant que t'oublies les prédictions optimistes, les conseils de sagesse ancestrale. Il y a des restaurants montréalais dans lesquels les biscuits chinois maintenant sont commandités par des entreprises. Désormais, il y a des publicités d'un casino offshore enregistré à Kahnawake qui vous donne un biscuit chinois, puis à l'intérieur, c'est un genre de rabais pour aller jouer aux machines.
Oh.
T'ouvres ton biscuit chinois, puis le marketing a poussé ça si loin que c'est plus votre sourire va illuminer votre journée. C'est rendu gagne un million instantanément pour une pièce.
Commande-toi un Coke.
Écoute, il y a même un code QR sur ton petit biscuit chinois.
Non, là, ça va trop loin.
Puis ça t'amène au Zodiac.casino. On est rendu loin, là. Le cookie est gratuit, fait que le restaurant ne paye pas. C'est ça qu'on comprend, parce qu'il fait de la pub, tu comprends, dans son restaurant. Fait que ça coûte bien moins cher en petit biscuit chinois. Puis après ça, tes clients sont l'objet d'un pur marketing mesquin.
Non, c'est ça. Il y a des affaires dans la vie là, auxquelles tu ne dois pas toucher. Les biscuits chinois, tu sais, là, la joke est bonne, celle qu'on nous a envoyée par texto. Là, je ne connais pas l'avenir, mais voici un biscuit. Ça, ça me ferait rire. Mais comme il y en a que c'est vraiment comme pas drôle, puis que je suis comme, hey, t'aurais pu comme servir à quelque chose, puis peut-être transformer ma vie. Puis là, à la place, tu me sors de quoi de que je comprends pas trop, de pas... Non, la publicité, tu ne touches pas à ça.
Puis en plus, ben tu sais, je pousse la question éthique là-dedans. Là, on parle d'un casino, Zodiac Casino. Habituellement, t'aurais pas pu avoir un petit biscuit qui dit « Va acheter à SAQ, ta vie va être meilleure. » Tu comprends, il y a des entreprises, puis il y a des targets qu'on ne doit pas aller là en marketing. Et c'est un peu ça, le casino
Le casino va te rendre riche.
Tu sais, la dépendance, faut pas jouer avec ça. Fait que là, on vient avec un enjeu aussi moral et éthique, parce que, tu vois, on n'est pas en train de te dire le Sauvignon blanc t'attend à SAQ, voici un code de QR pour économiser 10$.
Ça pourrait être genre le Sauvignon blanc t'attend, va boire pour oublier ta triste vie.
À Kahnawake, on a appelé puis on dit que le conseil de bande ni le Gaming Commission ont répondu aux questions des journalistes là-dessus. On tentait d'avoir justement un peu de réponse à pourquoi on est là, c'est controversé, ils n'auraient pas le droit, mais il faut revenir avec le fait que les revenus du programme là, d'affiliation, c'est assez substantiel. Donc, c'est supposé amener des clients au casino et ça, ça va aller dans ton inconscient ou dans ton conscient. Ces biscuits chinois-là qui nous contrôlent maintenant.
Inacceptable. Merci beaucoup,
Pascal. Ça me fait plaisir. Boycottons le biscuit chinois si jamais vous en tombez sur certains avec de la pub. Puis peut-être garder ceux qui ont des messages d'un coup que ça se vende sur Marketplace 50$ quand ça n'existera plus.
Le seul qui serait acceptable, c'est télécharge l'app Boulevard 102.1 qui a un petit code QR.
Ouais.
Ça, ça pourrait être pas pire. Merci Pascal,
merci.
À demain. Je vous laisse aujourd'hui dans le Point de Max avec une entrevue, une portion d'entrevue qui a été réalisée ce matin avec Sam Hamad dans Marceau le matin en lien avec l'annonce de Bruno Marchand qu'on a vu en exclusivité dans le Journal de Québec sur ce qui allait être fait dans Saint-Roch. Annonce donc de plusieurs millions de dollars pour venir revitaliser le quartier Saint-Roch et mettre des parcs qui sont un peu horribles, un petit peu plus beaux.
Nouvelle de dernière heure, c'est le début du procès de la mère qui a abandonné sa petite-fille en Ontario, l'avocat de la Couronne, l'avocat de la Défense qui s'entendent pour dire qu'elle est inapte à comparaître, ça vient de tomber, alors elle est déclarée non criminellement responsable.
Merci beaucoup, Pascal. Allez-vous avoir des éloges?